Marignan, le 14 septembre 1515. La première bataille de François Ier se déroule près de 1000 ans. Elle est entrée dans l'histoire, mais on ignore que ce fut une vraie boucherie, l'une des batailles les plus meurtrières du XVIe siècle. Entre le 13 et le 15 août 1515, les Français, François Ier à leur tête dans sa lourde armure, gravissent les Alpes en plusieurs passages parfois si étroits et vertigineux que les chevaux hésitent à avancer. Un mois plus tard, les montagnes derrière eux, les 40 000 combattants français font face aux troupes milanaises, près de Marignan, ou plutôt les troupes suisses, car le pape, à qui appartient le duché de Milan, leur a fait appel. C'est dans la plaine, située près de cette petite ville, que va se dérouler la bataille qui, curieusement, constitue la part inaliénable du savoir historique de chaque Français, et qui tient en une date délivrée immédiatement après le sésame Marignan. Marignan, 1515. Comme si le triomphe de François Ier symbolisait la première pierre du savoir national. La dernière pierre aussi, parfois. Revenons sur le champ de bataille. Nous sommes le 13 septembre 1515, vers 3 h de l'après-midi. Attention, ne conduisez pas votre cheval n'importe où. Et si vous êtes un archer à pied, attention aussi. Vous vous trouvez dans une zone de rizière et risquez de vous enfoncer. Les Suisses attaquent en empruntant les chaussées solides et légèrement surélevées. Les Français reculent. Mais voilà François. François le grand François. Il se lance à cheval dans la bataille avec 200 des siens contre 4 000 Suisses à la solde des Milanais et qui reculent. La bataille se poursuit et produit tant de poussière qu'il faut interrompre le combat. Il fait déjà nuit. À 4 h du matin, le 14 septembre, les Suisses attaquent. 3 h plus tard, ils ont enfoncé l'aile gauche française, le combat tourne en leur faveur. Mais voici qu'arrivent les alliés des Français, les Vénitiens. Les Suisses reculent et reçoivent alors une pluie de boulets lancés par les canons de Gallio de Guénouillac, l'habile commandant de l'artillerie française. Ils fuient en désordre. La cavalerie les rattrape et transforme bientôt les fiers Helvètes en petits Suisses vaincus. Le carnage va se poursuivre jusqu'à la fin de l'après-midi du 14 septembre. Les épées tranchent, découpent, fouillent, écartèlent, lardent, des os, embrochent, amputent, étourdissent, estourbissent tant qu'on dénombre près de 20 000 morts. Et le soir, sonnez trompettes de la renommée, battez cœurs et tambours, le roi François le Grand fait appeler Pierre du Terrail, légende vivante, dont les exploits sont chantés dans l'Europe entière.
« Bayard, mon ami !»
dit François à la légende vivante qui vient de s'arrêter devant lui.
« Bayard, mon ami, je veux aujourd'hui soyez fait chevalier par vos mains. »«
Sire !»
lui répond Pierre du Terrail de Bayard, sans peur et sans reproche.
« Parce que vous fûtes loin, vous êtes le chevalier des chevaliers. »« Allons, allons, Bayard, dépêchez-vous !»
s'impatiente François, sans doute à genoux sur quelques pierres pointues. Et Bayard s'exécute en posant sur l'épaule royale le plat de son épée. Plus tard, le compositeur du roi, Clément Jeannequin, 1485-1558, immortalisa ses journées dans sa chanson « La guerre ». Escoutez tous, gentils Gallois, la victoire du noble roi François. Et un peu plus loin, « France, courage, courage !» Donnez des orions chip, chope, torche, lorgne, patipatoctric, trac zin zin. Tue, à mort, serre. Courage, prenez, frappez, tuez, frappez dessus, ruez dessus. Et on dit que la musique adoucit les mœurs.
Léonard sans limite. En 1507, Louis XII prenait Milan et y découvrait un génie, Léonard de Vinci, dont il s'empressait de faire son peintre et ingénieur personnel. En 1515, François Ier retrouve à Milan ce génie, à qui il propose de venir s'installer en France. Léonard accepte et arrive en 1516 près du château d'Amboise, au manoir du Clos Lucé. Il a apporté avec lui quelques tableaux, dont la Joconde. Son bras droit est paralysé, il ne peut plus tenir un pinceau. Mais son imagination est encore débordante et il invente un lion mécanique dont les mouvements émerveillent la cour lors de grandes fêtes qu'il organise. Un tunnel relie la résidence royale au manoir de Léonard. Cela permet à François Ier de s'entretenir fréquemment avec son hôte d'exception. Le 2 mai 1519, dans sa chambre du Clos Lucé, Léonard, à 68 ans, rend le dernier soupir, la tête posée dans les deux mains royales. Léonard, la Joconde, Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant, Saint-Jean-Baptiste. Mais aussi des machines de toutes sortes, des machines volantes, des machines de guerre, le char d'assaut, la mitrailleuse, les bouches à feu multiples, ancêtres des sinistres orgues de Staline de la Seconde Guerre mondiale. Sans limite, l'imagination de Léonard. Sans limite.